Jean-Michel Dufaux, un grand voyageur, globe-trotteur, communicateur que vous connaissez, qu'on a vu partout, qui tient un blog, le blog siègehublot.com, est un amateur de sport. Mais je ne sais pas s'il aime plus le sport que les voyages. Jean-Michel, bonjour.
Bonjour. Bonne
question. Je ne pensais pas te poser cette question-là au début.
Je pense que j'aime beaucoup les deux.
Oui.
J'aime beaucoup les deux. Les
également?
Deux, oui, puis les deux, je dis souvent que je suis une personnalité anxieuse. Et autant le voyage que le sport me ramène dans le ici et le maintenant, dans le présent.
Ah oui. Alors,
quand je joue au hockey, quand je regarde le hockey, quand je joue au hockey, je joue encore au hockey deux fois par semaine, bien, je suis vraiment, c'est thérapeutique, ça me fait du bien. Je suis dans le here and now, le fameux ici et maintenant. Puis quand je voyage, même chose, on dirait que parce que je suis happé par ce qu'il y a autour de moi, je reviens dans le... Le ici et le maintenant.
Oui, c'est important pour vous d'être dans l'instant présent. C'est tout un défi, ça.
Oui, bien, je pense que c'est le défi de bien des gens. Oui. Puis quelqu'un qui est un peu comme moi, que je dis souvent, j'ai un peu une personnalité anxieuse qui est un peu trop dans le hier et le demain. Et dans ma tête, ben oui, ça m'aide absolument. C'est nécessaire.
Est-ce que c'est cette quête d'être justement dans le ici et le maintenant qui fait de vous un voyageur depuis... des siècles, pas exagérer, mais depuis votre tendre enfance.
Je pense que ça joue dans la balance. Je pense que je le raconte un peu dans le livre. Je suis fils d'un immigrant français.
Georges Dufaux, directeur photo, un grand homme d'image et de cinéma.
Réalisateur très sérieux, là, très, très intellectuel.
Comme
j'ai jamais trop compris. Non, pas comme moi, il ne comprenait pas trop ce que je faisais. Il ne regardait pas beaucoup la télé. Une fois, j'étais allé au Centre Bell, justement, au hockey, je l'avais amené. Puis des gens de Gatineau m'avaient payé une bière parce qu'ils m'avaient reconnu. Puis ils ne comprenaient pas que des gens pouvaient me payer une bière. Tout le match, j'étais avec pourquoi ils t'ont payé une bière?
Ah oui.
Là, ils m'ont vu à la télé, puis ils sont gentils. Puis... Enfin, tout ça pour dire que quand j'étais jeune, ouais, j'ai eu la chance de voyager un peu avec ma famille, mm-hmm. à 3 ans, 6 ans, 11 ans, là, en Europe. Puis je pense que ça m'a ouvert au voyage, ça m'a fasciné. La planète me fascine, les autres façons de penser, de voir, de faire les choses.
Oui. D'ailleurs, vous dédiez votre livre à votre père et à votre mère et aussi à une certaine Julie, dont on va faire connaissance en lisant le livre, à mon père qui m'a donné le goût des voyages et de la photographie, à ma mère qui m'a donné le goût des livres et des gens, et à Julie.
Oui.
Alors, c'est très touchant comme dédicace. Un livre qui paraît aujourd'hui, un grand événement pour vous. Merci d'être en studio aujourd'hui parce que le livre sort. Il s'intitule « Mon année à l'étranger », publié chez Parfum d'encre, beau nom de maison d'édition.
Oui.
Et je me demandais quel a été le point de départ de ce projet de livre. D'où est venue l'idée, Jean-Michel?
Bien, c'est pas mon premier. Puis à vrai dire, quand je suis parti cette année à l'étranger, qui était aussi en lien avec la cinquantaine, une sorte de pause... Quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. J'avais pas l'idée de faire un livre, à vrai dire. Mais un peu la synchronicité de la vie, les hasards. Pendant mon année, des fois, j'ai fait des petits sauts à Bangkok et
là, on
parle
de quelle année, là?
De automne 2018 à automne 2019. Donc, juste avant la pandémie, faut le signer. Parce que ce voyage-là n'aurait pas été possible depuis 2 ans avec les complications et tout. Et j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait chez La Courte Échelle et Parfums d'encre, cette maison d'édition. Puis... qui a un peu semé l'idée de... Il me semble que tu devrais... Elle me dit, Julie Massé, il me semble que tu devrais raconter ton année. Il me semble qu'il y a quelque chose là. Et c'est un peu resté dans ma tête. Et quand je suis revenu, en premier, je voulais plus peut-être faire un genre de souvenir photographique, argentique, tout ça. Mais les gens de la maison d'édition, avec raison, je pense, ont dit, il me semble, raconte aussi. Raconte en texte, pas juste en image. Raconte un peu pourquoi...
Oui, parce que c'est un récit.
Oui.
Mais c'est aussi un album
un
de photos.
Oui, c'est ça. C'est pas un guide voyage, c'est pas un livre. Je voulais que ça soit un peu au. C'est-à-dire, c'est difficile de le mettre dans une boîte, mais ça raconte mon année à l'étranger, un peu les motivations, les bons coups et les moins bons coups, les up and down, comme on dit. Mais aussi, je voulais quand même raconter ce que j'ai vu, ce que j'ai aimé, que ça inspire les gens à certains coins de la planète, de dire, ah, ben ça donne le goût d'aller à telle ville, à tel village, à tel endroit. Donc,
mais ce n'est pas un guide touristique habituel,
non,
je trouve, parce qu'on on apprend à connaître Jean-Michel Dufaux. Vous vous livrez, je trouve qu'il y a beaucoup d'intimité.
Bon point, que ce qui a été un travail pour moi, parce que moi, je...
Vous êtes assez secret.
Oui, je fais un travail public, mais je n'aime pas parler de ma vie privée.
Non, on ne vous connaît pas de ce côté-là, vous ne faites pas les unes des co-vedettes.
J'aime
ou du
pas
séjour.
Ça, je ne suis pas à l'aise avec ça, puis je dis toujours, pas parce qu'on fait un métier public qu'on est obligé de tout donner. J'en donne déjà beaucoup, puis j'en donne aussi... Moi aussi, je participe à la bête, là, c'est-à-dire des médias sociaux, tout ça, mais j'essaie de garder une sorte de vie privée, mais dans ce travail-là, il y avait un, dans cette écriture-là, il y avait un souci aussi d'essayer d'être vrai, de parler de moi. Et ça impliquait aussi de parler de certains trucs dont je n'avais pas parlé. Donc, l'exercice était pas toujours facile, mais on le fait ou on le fait pas, puis on essaie d'être le plus honnête et le plus. Jusqu'à un certain point, parce que je dis souvent maintenant, il y a la, genre, ce que j'appelle la pornographie de l'intime. Tout le monde partage tout. Il n'y a plus de mystère, il n'y a plus de vie privée, il n'y a plus rien.
Pour vous, c'est important qu'il y ait quand même un certain mystère, puis une pudeur aussi.
Oui, une sorte de réserve.
Pas tout montrer.
Exactement, une réserve. Ouais. Quelqu'un assez réservé. Je ne suis pas à l'aise de tout partager de ma vie privée, de ma vie personnelle. Pour moi, c'est ma vie perso. Il y a la vie travail, il y a la vie perso.
De vous mettre à nu.
Ouais.
Et le récit, sous le titre « Mon année à l'étranger », Jean-Michel Dufour, on peut lire « Récit de slow travel ». Alors, c'est pas un voyage organisé que vous avez fait, là.
Non, c'est ça. Puis d'ailleurs, on s'est posé la question parce qu'il y a le voyage lent, il y a une façon de le franciser, mais le vrai terme, un peu comme le slow food, c'est slow travel. Ouais. On s'est un peu posé la question, mais moi, je suis assez à l'aise avec ça. Quand même, tout le livre est en français, mais le phénomène du slow travel, c'est cette idée de ralentir, un peu comme le slow food.
Ça existe pour vrai.
Ça existe pour vrai. C'est-à-dire que je pense que c'est en réaction au surtourisme, c'est en réaction à essayer de tout voir tout le temps, de faire 15 capitales en 14 jours.
Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça?
Ben oui, je pense que quand je voyageais jeune, je pense que j'avais j'en parle dans le livre, le FOMO, là, excusez les anglicismes, le fear of missing out, le FOMO, la peur de manquer quelque chose. Donc, on se dit, tant qu'à être là, les tankas, hein, tant qu'à être ici, ben, je vais voir ça, je vais aller voir ça, on m'a dit de voir ça. Ça, c'est dans la must list, il faut faire ça, il faut voir ça, il faut faire la photo. Hein.
Et, finalement, on ne se souvient de rien ou presque.
Exactement, être partout, on est nulle part. Là, je pense que, donc, il y avait cette idée de, ben, j'avais la chance aussi de pouvoir partir un an. Donc, c'est sûr que c'est plus facile de faire du slow travel sur un an que quand on a une semaine. Mais l'idée, c'était d'essayer aussi, je pense, en lien avec la cinquantaine, de ralentir le temps, ralentir la vie qui va si vite. Moi, mes amis ne sont plus capables de m'entendre, je parle toujours de mon âge maintenant. La vingtaine,
trentaine. Vous êtes obsédé par la cinquantaine?
Oui, obsédé par la cinquantaine. C'est un bon terme. Je ne l'étais pas dans la vingtaine, trentaine, quarantaine, c'était rien. On dirait que le 5-0, je ne sais pas s'il y a, y a un lien avec ce chiffre.
Mais vous parlez de slow travel, mais vous avez un sentiment d'urgence en même temps.
Oui, exactement. Ben, en tout cas, l'urgence de faire les choses que je voulais faire, les rêves que je voulais réaliser, les briser les chaînes de la peur, parce que c'est sûr qu'il y a une peur à dire on part un an. Il y a une peur liée surtout dans un milieu comme le mien, ou avec des bonnes années, des moins bonnes années, un milieu de pigiste.
Ouais.
Il y a toujours cette peur qu'on sera oublié, il faut dire non à des trucs. Est-ce que les gens vont se rappeler de nous quand on va revenir? Bon, il y a tout
même
l'aspect.
Si on a 30 ans de métier.
Même à ça, c'est tellement un truc un peu subjectif, arbitraire et absurde un peu en quelque part.
Mais on ne vous a pas oublié à votre retour.
Non, mon retour se passe assez bien. Donc, je suis content parce que c'était aussi l'idée de partir pour mieux revenir parce que j'étais dans des années un peu plus difficiles. Je le dis souvent, mais à l'automne de mes 50 ans, l'automne 2015, où j'avais eu une bonne année, j'avais essayé de la TV, je faisais pour le plaisir des chroniques voyages, mais les deux choses se sont terminées pour moi. Puis je me suis retrouvé devant rien à l'automne 2015. Et là, j'étais, après 25 ans de carrière, juste à l'aube de la cinquantaine, j'avais rien. C'était tranquille, disons. J'avais une sorte d'angoisse par rapport à ça. Donc, cette réflexion-là, elle était à ce moment-là aussi. Mais finalement, il y a eu autre chose. Il y a eu Azimut à Évasion en 2016. Donc, j'étais parti un peu, d'ailleurs, pour mon 50e anniversaire. Je suis parti seul en voyage. Comme je ne veux rien savoir de personne, je vais être tout seul avec moi-même. Puis,
vous étiez allé où?
En Thaïlande.
Ah aussi. Oui?
J'étais à Bangkok pour mon 50e, tout seul. Je me disais, la théorie des, tu sais, un arbre tombe dans la forêt, si personne n'est là pour l'entendre, est-ce qu'il fait du bruit? C'est un peu ça, par rapport à mon anniversaire. Est-ce qu'il existe vraiment? Mais finalement, je suis revenu, donc je remettais 2017-2018. Puis à l'année 2018, j'ai fait comment? Non, je pense que je peux le faire. Faut que je le fasse. Puis sans tomber dans les phrases un peu lieu commun, mais je le dis un peu à la fin aussi. Mais tu sais, je pense qu'on regrette ce qu'on n'a pas fait. On regrette rarement ce qu'on a fait, même si ça a été difficile.
C'est vrai.
On apprend, on se relève. Mais ce qu'on n'a pas fait, là, ça nous travaille tout le temps. Puis là, je me disais, hey, ton année sabbatique, ton année à l'étranger, ça fait longtemps que tu y penses. Vas-y, c'est fonce.
Jean-Michel Dufour, philosophe. On va l'ajouter.
Philosophe à Saint-Saëns, là.
Non, mais il y a une profondeur. Puis à vous lire aussi, on ressent cette profondeur-là. Parlez-nous des destinations que vous avez visitées, où vous avez habité pendant cette année-là.
Bien, c'est drôle parce qu'au début, c'est ça, je ne suis pas capable de faire complètement du slow travel, de dire je suis à un seul endroit pendant un an et je ne bouge pas. Je ne suis pas un moine bouddhiste sur une roche qui, pendant six mois, est capable de, juste avec sa pensée... Mais donc, au début, même, il y avait cette idée peut-être de faire seulement deux endroits qui étaient peut-être 6 mois en Thaïlande, 6 mois au Vietnam. Évidemment, choisir des pays loin, des paysans, un continent que j'aime beaucoup aussi, des coûts de la vie aussi, il fallait penser à ça. Là. C'est sûr qu'il y a des endroits en Europe que j'aime, il y a d'autres endroits dans le monde, mais le coût de la vie est très cher. Donc, mm-hmm. je pense aussi au rapport qualité-prix là, d'une année qui allait me coûter quand même un peu d'argent, où les revenus étaient beaucoup moindres. Donc, j'ai commencé par Chiang Mai, dans le nord de Thaïlande, qui est la deuxième plus grande ville du pays, que j'aime beaucoup, mais c'est peut-être mon... J'en parle dans le livre, c'est peut-être mon seul regret. J'ai hésité entre Bangkok et Chiang Mai. Pour final, je me dis... Parce que Chiang Mai me semblait moins intimidant, moins pollué, puis finalement, c'est très pollué. Surtout à vivre là un an, c'est dans des montagnes, il n'y a pas vraiment de transport en commun. Il y a un problème de pollution. L'air, la qualité de l'air peut être problématique. Mais c'est un endroit que j'aime beaucoup, qui est en lien aussi avec mes premiers voyages en Thaïlande à la fin des années 90. Qui est quand même plus à échelle humaine, disons, que Bangkok.
Mm-hmm. Après Bangkok ça, que vous adorez.
Bangkok que j'adore, qui est une ville qui est drôle, qui est ce que j'appelle les villes E.T., les villes extraterrestres comme le film. Là. C'est-à-dire que E.T., au début du film, on le trouve pas beau, mais à la fin du film, on le trouve beau. Il y a des villes pour moi qu'au début, la première impression est assez négative.
Ça fait pas de mine.
Non, c'est ça. Ça
finalement,
exactement.
On tombe en amour.
Finalement, on tombe en amour. On apprend à la connaître, puis on apprend à... alors que mes premières impressions de Bangkok, je me rappelle, c'était « Ah non, c'est gros, c'est pollué. » Puis tout de suite, je l'utilisais comme « hop, je m'en allais ailleurs. » Mais finalement, j'ai comme appris à aimer cette ville-là. Puis c'est une ville que j'aime beaucoup. J'adore les mégapoles. J'adore les grosses villes. Ensuite, pas très bon pour mon empreinte carbone, mais je suis allé au Mexique, à Mazatlan, qui est une ville que j'aime beaucoup sur la côte ouest, qui est un peu moins connue, touristique, mais surtout de tourisme mexicain. Une ville de 500 000 habitants, ça j'en parle aussi dans les livres. J'aime les villes qui ont un écosystème qui n'est pas juste le tourisme, qui a une vraie vie. Mm-hmm. Je me rappelle, j'avais rencontré un Canadien dans un restaurant puis qui avait une maison secondaire là, puis il disait « It's a working city ». C'est une ville où les gens travaillent, puis c'est vrai ce que
on
j'aime.
On sent l'énergie.
Et voilà, on sent l'énergie d'une vraie ville qui peut exister sans le tourisme. Donc ça, je trouve que c'est un gros plus, puis qui n'est pas trop touristique. C'est la côte ouest aussi. J'aime beaucoup la côte ouest, là, les couchers de soleil, la Malécon. C'est une ville qui a vraiment une belle, un beau truc. C'est un peu une ville qui pourrait être un peu plus raffinée, mais qui est en train de se travailler. Mais le centre historique magnifique, c'est une ville coloniale sur le bord de la mer, ce qui est très rare au Mexique. C'est une ville que j'adore, là, vraiment. Mazatlan, c'est vraiment un gros coup de cœur. Puis après ça, je suis retourné en Asie, au Vietnam, un pays que j'aime beaucoup depuis 10 ans, que je connais un peu moins que la Thaïlande, mais qui est de plus en plus en train de devenir aussi un de mes pays préférés. Ville de Da Nang, qui n'est pas la ville la plus jolie, qui est un peu la Silicon Valley du Vietnam, beaucoup de IT, des trucs comme ça. Tout près de Hoi An, qui, elle, est assez connue, très jolie, mais très touristique. Un peu moins intimidante que Hanoï et Ho Chi Minh, qui sont extraordinaires, mais tellement, tellement grosses, tellement polluées, tellement de motorbikes, de mobilettes que... Da Nang, j'aime vraiment. J'ai vraiment aimé mon séjour à Da Nang.
Vous portez le masque là-bas aussi.
Oui, comme il le porte déjà.
Même avant la pandémie.
Puis j'ai même des photos qui ne sont pas dans le livre, mais que j'ai des gens à Bangkok qui avaient le masque et des trucs comme ça. Donc, Da Nang, ça a été un gros coup de cœur. C'est une ville sur le bord de la mer, au milieu du pays. C'est pas la plus jolie, la plus romantique. Elle a goûté à la guerre du Vietnam.
Ah oui.
Mais il y a une énergie. Je me sentais bien dans cette ville-là. Il y a les montagnes autour. Formidable pays, les gens, quel peuple attachant. Et à la fin, c'était devenu un peu plus un voyage traditionnel. J'ai terminé en Europe, mais avec deux fois des échanges d'appartements. Ce que j'explique dans le livre, des fois, on peut voyager de façon moins chère. Il faut être, je suis membre d'un site qui s'appelle Home for Exchange. Il y en a plusieurs, il y en a des sites français où on échange nos maisons. Donc, c'est seulement l'abonnement à ce site. Et je suis allé donc à l'île de Tenerife, dans les îles Canaries. Et à Barcelone, ça a été des échanges d'appartements. Donc, de toute façon, en Europe, où le coût de la vie est cher.
Oui.
C'est ça, parce que je voyais vraiment la différence entre les pays émergents puis les pays de l'Ouest. Je raconte aussi rapidement, mais je suis passé par San Francisco, puis en une journée, disons, je dépensais ce que j'avais dépensé en une semaine en Asie. C'était tellement cher.
Qu'est-ce que vous avez mangé de meilleur?
Au Vietnam, c'est un peu moins épicé que la Thaïlande. Il y a des très bons restaurants... végétarien à Da Nang. J'ai mangé ce qu'ils appellent les Vietnamese pancakes, là, comme des crêpes. Que ça, c'est vraiment un goût qui m'est resté. Il y a un restaurant qui s'appelle Rome Revolution of Mushroom. restaurant donc végétarien qui était formidable. Mais j'ai bien mangé. J'ai vraiment bien mangé.
Oui, vous donnez des adresses.
Oui, c'est ça. Ce que je voulais, c'est que ça inspire. C'est un bon point. C'est pas un guide qu'on apporte avec ça, je pense, parce qu'il est un peu gros. C'est plus un livre de tabac à café. Mais il n'est pas trop gros. Non. J'aime le format parce qu'il n'est pas trop intimidant. Il est convivial. Mais je pense que c'est un livre pour les gens qui ont le goût. Parce que on se remet à rêver, par procuration ou parce qu'on veut être inspiré. C'était ça un peu, c'est donner le goût aux gens de voyager, dans le fond, puis d'essayer d'être le plus... de partager mes coups de cœur, puis de raconter un peu mon récit personnel et mon récit de voyageur,
Un livre réussi avec des photos superbes, il y en a en noir et blanc, il y en a en couleur. Bravo, bravo pour cet ouvrage intime. C'est introspectif, c'est instructif aussi, ça donne le goût de partir et ça nous apprend à mieux voyager. Alors, mon année à l'étranger, Jean-Michel Dufault, merci d'être passé en studio puis bon succès avec ce livre.
Merci beaucoup de l'invitation, très gentil.